Et le journal est présenté par Marc Bertrand. Bonjour Marc.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. L'Union européenne au bord de la crise politique sur la question migratoire. Après l'Aquarius, l'Italie refuse d'accueillir un nouveau navire d'ONG d'aide aux migrants. Le gouvernement italien fait pression sur l'Union. Rome espère des mesures fortes. Un mini-sommet européen a lieu demain pour en discuter. L'invité de la deuxième partie des Matins de France Culture, c'est justement un spécialiste de la migration. Le sociologue Smaïn Lacher est avec nous ce matin pour parler de son livre « Croire à l'incroyable », un sociologue à la Cour nationale du droit d'asile, paru chez Gallimard. Il raconte son expérience comme juge assesseur et on le retrouvera juste après ce journal. Aux États-Unis, le scandale continue face aux images d'enfants derrière des barreaux dans des centres de rétention. Donald Trump a reculé, il accepte de réunir les familles, mais la logistique ne suit pas. Et très peu pour l'instant ont retrouvé leurs parents. Nous serons à Washington dans ce journal.
L'OPEP s'accorde pour relancer la production mondiale de pétrole. L'Iran pourrait y perdre à cause de sanctions américaines.
Et puis la Génération Nation, c'est le nouveau nom du Front National des Jeunes. Il va être officiellement étrenné aujourd'hui. Dernière étape du grand lifting du parti de Marine Le Pen.
L'Italie maintient la ligne dure à l'encontre des navires qui viennent en aide aux migrants. Elle refuse toujours ce matin d'ouvrir ses ports aux bateaux de l'ONG allemande Lifeline.
Et comme avec l'Aquarius, il y a deux semaines, l'Italie a demandé à Malte d'accueillir le navire qui transporte 239 migrants à son bord. Et comme avec l'Aquarius, la Valette aurait refusé, selon Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur italien, qui cherche à mettre la pression sur ses partenaires européens, alors que demain à Bruxelles aura lieu un mini-sommet sur la question des migrants. Rome exige qu'on y aborde la question qui l'intéresse. Pas celle de la répartition des migrants déjà arrivés sur le sol européen, mais plutôt celle de la protection des frontières extérieures de l'Union européenne. Parmi les pistes de travail, il y a celle de créer des centres d'examen des demandes d'asile, des hotspots, comme on les appelle, en dehors des limites de l'Union. Alors des missions de ce type existent déjà. L'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, est présent par exemple à Agadez, au Niger. Mais selon Mano Agali, député de la région d'Agadez, cette simple expérience pose déjà beaucoup de problèmes.
Ça fait un appel d'air et il y a eu beaucoup de gens qui sont arrivés plus qu'on ne le pensait. Il y a les candidats traditionnels à la migration qui veulent venir en Europe, qui nous viennent de l'Afrique de l'Ouest et du centre. Vous avez des personnes qui nous viennent du Soudan, qui n'ont pas l'habitude de venir au Niger, qui viennent au Niger pour grossir les rangs. 2000 personnes sont présentement à Agadez. Ces personnes ont le statut de réfugié du HCR. Donc c'est le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies qui s'occupe de ces personnes. Qui ça fait un engorgement dans la région d'Agadez. Parce que pour eux, ils arrivent, ils ont le statut de réfugié, ils doivent venir automatiquement en Europe avec toutes les facilités. Et alors qu'il y a un travail à faire. C'est une bonne idée d'avoir les hotspots en Afrique, mais il faut les préparer. Est-ce que c'est Niamey le meilleur endroit où il y a plus de places ou bien plus de possibilités? Est-ce que c'est le centre du pays? Et c'est la fragilité d'Agadez, moi, que je vois. C'est une population, un gros village, ce n'est pas une grosse ville, Agadez. Il n'y a pas les infrastructures. Et ce fait que c'est très sensible par rapport au nombre d'habitants d'Agadez.
Mano Agali, député de la région d'Agadez, au Niger, au micro de Fanny Bouvard. Alors, je me tourne vers vous, Smaïn Lacher. Je rappelle, vous êtes sociologue, spécialiste des migrations. Vous avez été assesseur à la Cour nationale du droit d'asile. Alors, ces hotspots installés en dehors des frontières de l'Union européenne, est-ce que pour vous, c'est une bonne idée?
Je ne sais pas si c'est une bonne idée. En tout cas, d'abord, Agadez est une vieille ville, si je puis dire, de transit d'immigrés. Donc c'est pas nouveau qu'on s'intéresse à Agadez comme plaque tournante pour y installer des hotspots. Deuxièmement, c'est intéressant du point de vue, et c'est rentable, si je puis dire, du point de vue des États. Bien évidemment, puisque c'est une procédure qui éloigne les migrants qui les empêchent d'arriver dans le nord de l'Europe, plus exactement dans le sud, pour partir le plus au nord possible. Ça crée un appel d'air. Alors c'est un terme que j'aime pas beaucoup, mais il est évident que un certain nombre de gens, et en particulier de jeunes, ont dû se précipiter sur ce hotspot pour dire je demande l'asile, sans savoir très exactement ce à quoi correspond un hotspot, ce qu'on y fait, qui travaille dans ce hotspot, etc.
Mais donc c'est de toute façon un lieu de transit et un lieu de passage pour beaucoup de migrants.
Oui, mais franchement, avec ou sans hotspot, Agadez était déjà un lieu de passage et un lieu de transit pour les migrants.
Merci Smaïn Lacher. On vous retrouve dans 10 minutes, juste après le journal, avec Caroline Brouet pour en reparler. Aux États-Unis, Donald Trump a reculé sur sa politique de séparation systématique des enfants de migrants, mais la situation reste très chaotique. Le décret est signé des mains du président américain, mais derrière, il n'y a aucun plan coordonné pour réunir ces mineurs avec leurs parents mis en détention pour entrer illégal aux États-Unis. La télévision américaine diffuse ces derniers jours des scènes de retrouvailles, mais ça ne concerne que quelques enfants sur les 2300 placés en centre de rétention. Et l'administration est incapable de fournir des chiffres précis. Surtout, l'affaire a soulevé une vague d'indignation. Des manifestations ont lieu un peu partout dans le pays pour dénoncer la séparation des familles, mais aussi plus généralement la détention systématique des migrants illégaux. À Washington, Grégory Phillips.
Devant la Maison Blanche, ils sont venus avec un mégaphone et diffusent sous les fenêtres du président les pleurs de ces enfants détenus au Texas et qui en début de semaine ont ému une bonne partie de l'Amérique. Mia Jacobs, de l'association de défense des droits de l'homme ACLU, dit que rien n'est réglé pour ces enfants.
La crise continue. Le gouvernement n'a pas de plan pour les réunir. Il n'y a pas de réponse.
En banlieue de Washington, cette fois en Virginie, d'autres manifestants sont allés cueillir hier matin Kirsten Nielsen, la ministre de la Sécurité intérieure, devant chez elle avec les mêmes pleurs d'enfants et des cris.
Shame, 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 shame.
Honte à vous. Manifestation également au Texas, le long de la frontière, ou encore ici à l'aéroport de LaGuardia, où une petite foule est venue accueillir 7 mineurs coupés de leurs parents et placés dans un foyer new-yorkais. Quant à Trump, il ne se laisse pas émouvoir par les pleurs ou les photos d'enfants diffusées par ses manifestants ou dans les médias. Des histoires de tristesse et de deuil bidon, estime le président, racontées selon lui par les démocrates en espérant que ça les aidera à gagner les prochaines élections.
Grégory Phillips, correspondant de France Culture aux États-Unis. Washington qui joue l'escalade dans la guerre commerciale qui menace avec l'Union européenne. Hier, Donald Trump a réagi à l'entrée en vigueur des taxes additionnelles européennes sur des dizaines de produits emblématiques. Le président américain annonce qu'il va taxer à 20% les voitures européennes. Ce n'est pas la première fois que Donald Trump brandit cette menace. Il se plaint régulièrement de voir trop de berlines allemandes dans les rues de New York. Et une nouvelle justement saluée par le président américain hier, les prix du pétrole vont baisser. L'OPEP s'est accordé sur une augmentation de la production mondiale à hauteur d'un million de barils par jour. Ça correspond à une augmentation modérée de la production pour contenter tout le monde, à la fois l'Arabie Saoudite qui veut augmenter sa production et les pays comme l'Iran et le Venezuela qui en raison des sanctions américaines ne vont pas pouvoir exporter tellement davantage. L'analyse de Jean-Pierre Favennec, professeur à l'école du pétrole et des moteurs.
Je ne sais pas si c'est un signal géopolitique, je crois que c'est un signal économique. Ce que je veux dire par là, c'est que on se rend compte que l'essentiel pour les pays producteurs de pétrole, c'est d'avoir une recette minimum. Ils ont beaucoup souffert pendant les années 2015-2016 quand le prix du pétrole était au plus bas. Donc une guerre des prix se serait terminée sans doute par un effondrement des prix, c'était tout à fait possible. Si les deux camps, si je puis dire, l'Arabie Saoudite avec la Russie, qui ne fait pas partie de l'OPEP mais qui est très liée maintenant à l'Arabie Saoudite, d'une part, et Irak, Iran, Venezuela ne s'étaient pas mis d'accord, on allait vers une situation de surproduction de pétrole éventuellement, et à ce moment-là, le prix du brut s'effondrait. Je crois qu'après ce qui s'est passé aujourd'hui, on va avoir une augmentation limitée de la production, les marchés vont l'interpréter d'une manière convenable, et donc on va avoir sans doute une petite baisse des prix, mais de manière limitée. On disait justement récemment que l'augmentation du prix du pétrole était un des facteurs qui ralentissait un peu la croissance. On parle en France, par exemple, d'une croissance qui serait plus faible en 2018 qu'en 2017. Je pense que la décision qui a été prise aujourd'hui est une décision positive qui va permettre de ne pas augmenter davantage le prix du pétrole, de le ramener peut-être à un niveau un peu plus bas et donc de favoriser ce qui va dans le sens d'une croissance positive pour les pays, l'ensemble des pays consommateurs.
Le spécialiste de l'énergie Jean-Pierre Favennec au micro de Catherine Pétillon. La répression au Nicaragua a fait 212 morts et plus de 1300 blessés selon le dernier bilan de la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Depuis deux mois, une partie de la population se soulève pour exiger la démission du président Daniel Ortega accusé de corruption. Le bilan s'est encore alourdi hier malgré la médiation depuis quelques jours de l'Église. Elle a fait libérer plusieurs dizaines de manifestants emprisonnés. et elle dit redouter un massacre.
France Culture 8h09, suite du journal Marc Bertrand.
Les 55 millions de Turcs sont appelés aux urnes ce week-end, élections législatives et présidentielles demain. Recep Tayyip Erdogan compte bien se faire réélire, mais le scrutin est plus incertain qu'il n'y paraît. Le tout-puissant président turc pourrait bien être mis en ballotage et son parti, l'AKP, n'est pas du tout assuré d'avoir la majorité au Parlement. Le ralentissement de l'économie a en effet sapé la popularité du pouvoir après deux années de croissance tirée par des politiques de grands travaux. Première victime, les jeunes. Nathanaël Charbonnier en a rencontré dans les rues d'Istanbul.
Nous sommes dans le quartier de Maltepe, un quartier populaire d'Istanbul. Assis à une terrasse, un groupe de jeunes discute. Ici aussi, la vie n'est pas simple. Le taux de chômage des jeunes dépasse les 28% en Turquie. L'un d'eux veut devenir militaire, les cheveux vont tomber, mais le salaire, lui, devrait s'élever un peu.
Pourquoi il a choisi d'être militaire?
Parce que c'est un métier sacré, enfin, c'est une manière de servir la nation. Il y a aussi un bon salaire.
L'armée, espoir pour mieux gagner sa vie et se projeter dans l'avenir, mais très vite, une autre idée s'invite. Celui qui parle est tout aussi jeune, mais lui estime que la mosquée, elle aussi, permet de bien vivre.
Il dit qu'il y a aussi de l'argent à la mosquée si tu veux devenir imam. Tu gagnes 3600 télé. Les imams, ils sont bien lotis.
Le taux est à la rigolade avant de prendre une tournure plus sérieuse. Ce n'est plus le jeune turc qui parle, mais le musulman qui se sent maltraité par l'Occident et les États-Unis. Surgit alors un nom que l'on croyait d'un autre temps.
Bin Laden.
Ben Laden, défenseur des musulmans, le discours est partagé par les jeunes qui opinent du chef. La discussion irrite un client plus âgé assis à une table à côté. Les conséquences de la crise en Turquie sont loin d'être toutes connues.
Un reportage à Istanbul signé Nathanaël Charbonnier.
Une nouvelle journée de mobilisation en défense du service public aujourd'hui à Paris et dans plusieurs villes de France.
Oui, manifestation à l'appel d'un collectif formé de syndicats, d'associations et où figure notamment le Parti communiste. Il dénonce la casse de la SNCF, la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires sur le quinquennat. À Paris, le cortège partira de la place de la République à midi. C'est la dernière étape de la MU du Front National, désormais appelé Rassemblement National. Son mouvement de jeunes, le FNJ, change lui aussi de nom aujourd'hui pour devenir Génération Nation. À sa tête, Jordan Bardella, 22 ans, militant frontiste depuis son année de seconde. Il n'a pas été élu, plutôt nommé par la présidente du parti, Marine Le Pen, avec pour mission de réorganiser un mouvement qui est en perte de vitesse ces dernières années, Stéphane Robert.
Les jeunes au Front National affirment être aujourd'hui environ 20 000, âgés de moins de 30 ans. En réalité, c'est sans doute un peu moins, car comme au FN, devenu Rassemblement National début juin, les effectifs ont fondu depuis la défaite à la présidentielle en 2017, raison pour laquelle Marine Le Pen a confié à ce jeune militant de 22 ans, au FN depuis 2012, Jordan Bardella, le soin de redynamiser le FNJ, qui du coup lui aussi change de nom, pour devenir Génération Nation.
Oui, l'idée c'est évidemment d'avoir la même ligne qu'impulse hein, Marine Le Pen à l'échelle du Rassemblement National, une ligne d'ouverture, de professionnalisation, et puis aussi, je crois que Marine Le Pen a toujours fait confiance à la jeunesse. La jeunesse, c'est près d'un tiers, les moins de 30 ans, c'est près d'un tiers du Rassemblement National. Génération Nation, ce sera le point de ralliement de la jeunesse française qui aspire à défendre son identité et à se battre pour défendre le modèle social français.
Devenir ou redevenir le point de ralliement de la jeunesse française qui aspire à défendre son identité. Derrière cette ambition, il faut voir que le FNJ, comme le Rassemblement National, ex-Front National de Marine Le Pen, est non seulement en perte de vitesse, mais qu'il est aussi contesté en interne. Les critiques fusent sur la ligne, sur la crédibilité de la présidente, sur les décisions prises et pas toujours comprises. Et puis il y a aussi le fait que le mouvement de jeunesse du FN est aujourd'hui concurrencé par d'autres formations de la droite extrême qui fleurissent ou qui se développent, bastion social, génération identitaire. D'ailleurs, ce n'est sans doute pas un hasard si pour se réinventer, le FNJ a décidé d'emprunter aux identitaires le terme « génération » en se faisant appeler « Génération Nation ».
Stéphane Robert et une autre qui a récemment changé de nom, c'est Marion Maréchal et non plus désormais Maréchal Le Pen. Elle a inauguré hier son école de sciences politiques à Lyon. Ça s'appelle l'Institut de sciences sociales, économiques et politiques, l'ICEP. Et son but, c'est de former, je cite, une nouvelle élite politique. Au conseil scientifique de l'école, on trouve notamment un essayiste, Thibaut Collin, un professeur d'économie à l'université Lyon 3, Patrick Louzy, qui est aussi l'ex numéro 2 du parti. de Philippe Devilliers. La météo en ce début de week-end, encore une belle journée avec quand même quelques nuages sur le nord-est. Il pourrait pleuvoir en montagne dans les Pyrénées. Il fera 22 degrés à Paris, à Brest et à Strasbourg. Un peu plus frais au nord, 19 degrés à Lille. Il fera 25 degrés à Lyon, jusqu'à 28 à Bordeaux et à Marseille.